84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Nous allons commencer une nouvelle partie, si vous voulez, de ce cours de philosophie première, le point de vue de la qualité. Une fois qu'on a découvert l'ousia, la substance, comme principe selon la forme de ce qui est, on met immédiatement en parallèle les diverses catégories par rapport à l'ousia. Autrement dit, nous revenons à cette chose que nous connaissons bien, les catégories. Faisons attention, quand j'ai découvert l'ousia, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, nous découvrons l'ousia comme le dépassement de la division substance première et substance seconde. Et nous découvrons l'ousia au niveau de ce qui est. Tandis que substance première et substance seconde sont toujours découverts au niveau de l'attribution. Donc on est au niveau du néguétat pour découvrir le point de vue fondamental de ce qui est. Le néguétat étant substance première, substance seconde. Et on trouve l'aspect fondamental de ce qui est l'ousia, comme arché, comme principe et comme. Ayant découvert l'ousia, donnant une signification nouvelle de la substance première et de la substance seconde, nous devons nous demander quelle est la signification au niveau métaphysique, donc au niveau de ce qui est, de la qualité, de la quantité, de la relation. Ça nous est donné, ça, c'est un fait, hein. Nous partons de là. Il faut bien voir toujours comment nous posons ces problèmes au point de vue métaphysique. Alors on pourrait se demander si de fait on peut continuer, se demander au point de vue de la passion, de l'action. D'une certaine manière, on peut reprendre tous les prédicaments. De fait, nous reprendrons seulement les trois premiers. Pas cette année-ci, hein, vous voyez bien, on arrive au terme. Mais on continuera. On ne regardera pas les autres. On pourrait les regarder, ce serait intéressant du reste. Il faudra peut-être les regarder rapidement. Mais vous voyez le problème qui se pose, c'est que la découverte de l'ousia va mûrir le problème des prédicaments et va faire que le problème des prédicaments va se poser d'une autre manière que lorsqu'il s'est posé dans la découverte des prédicaments. Je vous ai dit plus d'une fois, le problème des prédicaments, c'est un problème descriptif. On est au niveau du néguétat. C'est l'attribution. L'attribution, c'est le legata, c'est ce qui est dit, ce qui est attribué. Ça, on peut le décrire. C'est pour ça que les dix prédicaments, ça ne fait pas un très grand effort de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien où ça se situe. Pour la plupart des gens, ils ne savent pas très bien. Pourquoi ils ne savent pas où ça se situe? Parce qu'ils n'ont pas découvert l'ousia. Si on découvre l'ousia, on voit tout de suite où se situent les aspects descriptifs. Vous voyez? Il faut bien saisir ça, parce que je crois que c'est très important pour toute la recherche que nous allons faire. Il faut quand même essayer de comprendre où se situent les recherches que nous faisons au point de vue philosophique. Autrement, alors on met les choses les uns à côté des autres, on a un ordre logique, on n'a pas un ordre philosophique. La logique n'est pas un ordre philosophique. La logique, c'est un ordre proprement du légitime. On est au niveau du langage. Et quand on est au niveau du langage, on n'est pas au niveau philosophique. Saint Thomas dit avec beaucoup de force, toutes les discussions qui sont au niveau du langage ne sont pas philosophiques. Laissez les rhéteurs être au niveau du langage. Eux, c'est normal, hein? Mais le philosophe, lui, ne s'intéresse pas aux discussions qui sont uniquement au niveau du langage. Il renvoie ça à la logique et aux rhéteurs. Le philosophe, lui, veut atteindre la réalité. Alors, je comprends très bien, quand je suis en face uniquement des prédicaments considérés en eux-mêmes, quand on les considère en eux-mêmes, alors on a toutes les positions qui ont été soutenues. Les uns disent que c'est au niveau métaphysique, les autres disent que c'est au niveau purement logique, d'autres disent que c'est au niveau de la grammaire, d'autres, regardez aux banques. C'est très significatif, ça, et c'est intéressant. Et regardez les réponses d'André de Muralt face à Obank. C'est intéressant comme petite question, et c'est toujours intéressant. Hein. Les prédicaments d'Aristote, il faut quand même les lire en première année. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous aurez un petit labeur pendant les vacances. Hein, parce que c'est intéressant de lire les catégories. Il faut avoir lu les catégories d'Aristote. Parce que c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas du tout quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de très important. C'est comme une toile de fond. C'est important une toile de fond, hein, parce qu'on se heurte tout le temps là-dessus. C'est une toile de fond, les dix prédicaments. Je ne peux savoir exactement ce que représentent les prédicaments que lorsque j'ai découvert l'ousia. Tant que je n'ai pas découvert l'ousia, je ne sais pas exactement ce que c'est que les prédicaments. Description. Une description, quand il n'y a pas un fondement à la description, on ne sait pas exactement. Et c'est, je crois, ce qui fait que les prédicaments sont regardés de façon très multiple et très diverse. Une fois que j'ai découvert l'ousia, donc le dépassement de la substance première et de la substance seconde, et que j'ai découvert la substance au niveau métaphysique, comme le principe selon la forme de ce qui est, ou la cause selon la forme de ce qui est. Immédiatement, je comprends, par rapport à l'ousia, ce que représente la substance première et la substance seconde. Je vois que la substance première, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation concrète, donc les causes, de l'ousia. La substance première, elle implique le problème de l'individuation et elle implique le problème de la subsistance, ce que nous avons vu. Si nous avons compris ce que c'est que l'individuation et si nous avons compris ce que c'est que la subsistance, nous comprenons immédiatement ce que c'est que la substance première. La substance première, c'est Pierre. Ou si vous voulez mieux, Jacques. Ça n'a pas d'importance. Hein. C'est Pierre ou Jacques. C'est-à-dire, c'est moi. Chacun d'entre vous, vous êtes une substance première. Vous êtes un tout dédit. C'est merveilleux de vous regarder comme ça. Vous êtes un tout dédié. Vous êtes une réalité existante. Vous êtes une réalité existante individuelle. La preuve, c'est que vous êtes distinct de votre voisin et qu'il faut que les limites soient bien faites, n'est-ce pas? Et que vous ne prenez pas trop de place pour laisser à votre voisin comme possibilité. Mais dans le TGV, on comprend très bien ce que c'est que le tout dédié. Parce que si vous êtes à côté d'un bonhomme qui est trop gros, vous avez envie de couper. Alors le taux d'éthique, l'individuation. Et l'individuation qui fait qu'on subsiste. L'individuation, je suis distinct des autres, je subsiste en moi-même. Ce que nous avions vu au dernier cours. individuation est subsistante. C'est Pierre, ça. C'est Jacques. C'est le Todetti. Vous voyez que je ne peux comprendre la substance première au niveau métaphysique que grâce à la découverte de Bousillon. Au niveau des catégories, Pierre, c'est quoi? C'est ce qui est attribué à personne. C'est l'ineffable. L'individu est ineffable. On ne peut pas le définir. Il est ineffable. Donc, j'ai une connaissance de la substance première au niveau du végétal purement négative. C'est le mur sur lequel, de fait, toutes les attributions viennent s'attribuer. J'attribue substance seconde à substance première. J'attribue qualité à substance première. J'attribue quantité à substance première. J'attribue relation, tout. C'est donc la substance première est vue au niveau des prédicaments, est vue uniquement d'une façon négative. C'est le sujet auquel tout est attribué. Et c'est ce qui n'est attribué à rien. Donc vous voyez tout de suite, j'espère, la différence de vision de la substance première au niveau prédicament et au niveau philosophie première. Au niveau prédicament, la substance première, c'est le sujet. Donc ce qui n'est pas attribuable, le propre d'un sujet, c'est celui qui n'est pas attribué, qui n'est attribué à personne. C'est celui qui reçoit toutes les attributions. Donc, au niveau prédicamental, au niveau des prédicaments, la substance première, c'est le sujet, je n'ai qu'une connaissance négative de ça. Puisque les prédicaments, ce sont les catégories, c'est-à-dire ce qui est attribué. Les détails, ce qui est attribué. Bon, ce qui n'est pas attribué par rapport à ce qui est attribué, c'est négatif. Donc, au niveau prédicamental, je n'ai qu'une connaissance négative du point de vue de la substance première. Dès que je découvre l'ousia, j'ai une connaissance positive de la substance première, puisque je vois que la substance première, c'est l'individu de l'ousia, donc c'est le pons, au niveau proprement concret, c'est Pierre, c'est cette substance qui existe, c'est l'homme, concret qui existe et il subsiste en lui-même. Il a son autonomie. Bien. Je peux maintenant faire la même chose par rapport à tout le reste des catégories. Essayer de comprendre non plus uniquement au niveau du légétal, au niveau de l'attribution, ce que représente la qualité. J'ai compris que radicalement, ce qui est, c'est la substance. Mais quand je comprends la substance comme principe et cause de ce qui est, je n'épuise pas la réalité. Je n'épuise pas ce qui est comme être. Je ne peux pas dire que ce qui est égale ousia. Non. Puisque ce qui est aussi qualité. Mais l'ousia est première, la qualité seconde. Ce qui est aussi quantité. Vous voyez bien, ce qui est aussi quantité, ce qui est aussi qualité. C'est le fondement de ce légétail. Ce légétail se fonde sur quelque chose de réel. Et c'est par là que j'arrive à concevoir comment les prédicaments me donnent les diverses modalités de l'être. Vous voyez bien le passage entre les deux. Et ça, je crois que c'est très important. Tant qu'on n'a pas compris ça, on patauge par rapport aux prédicaments. Une fois qu'on a compris ça, on voit très bien la différence du regard proprement descriptif. Je décris. Je décris ce qu'est Pierre. Ben oui, Pierre, il est Pierre. Il est ineffable, Pierre. Et Jacques aussi. Ils ont ce privilège. Vous avez chacun le privilège d'être ineffable. C'est un privilège énorme. Parce qu'alors, on peut dire que tout ce que les autres disent de vous, ils n'ont rien compris. Il y a en chacun d'entre nous quelque chose d'ineffable. Les autres nous disent, ah oui, tu es un homme, tu es intelligent, tu es bête, tu es ainsi de, et ainsi de suite. C'est très très bien, mais ils n'ont rien compris. Parce qu'il y a dans Pierre quelque chose d'ineffable. C'est pour ça que si je réfléchis profondément à ce que je suis, je m'aperçois que personne ne me comprend. Ah, ça peut être une terrible solitude, hein. Personne ne m'a compris dans ce qu'il y a en moi de plus ineffable. Pierre, c'est ineffable. On ne peut pas le définir. Donc tout ce que les autres disent de moi, c'est vrai partiellement. C'est pas vrai profondément. Le moi est ineffable, l'individu est ineffable. C'est très important de comprendre ça, vous voyez. C'est très, très important de le comprendre au plan métaphysique, de comprendre que l'oubliya dans son pose, c'est l'individu, dans son pose, c'est ce qui subsiste. Donc j'ai fait le passage du légétail à la métaphysique. Je vais faire maintenant le même passage du légétail de la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité au niveau proprement de l'être? Alors je dirais que la qualité est un mode de l'être. Très bien, il faut savoir quel est ce mode de l'être. Parce que la qualité n'est pas la quantité, la qualité n'est pas la relation. Alors qu'est-ce que c'est? Le ti esti de la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Je vais me poser cette question-là. Vous voyez qu'en me posant cette question-là, je ne quitte pas mon regard métaphysique. Mais ce n'est plus le regard métaphysique dans toute sa profondeur, et c'est pour ça que c'est plus facile. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de saisir la qualité que la quantité. Même au plan métaphysique, c'est beaucoup plus facile de saisir la qualité. Parce que la qualité est quelque chose de second. C'est toujours plus facile de saisir les choses secondaires que les choses premières. Les choses premières, elles sont cachées. L'ousia est cachée. La qualité a le privilège de ne jamais être cachée. La qualité, elle se manifeste. Vous voyez, c'est intéressant parce que là, nous voyons bien la perspective de Heidegger. Aletheia. La vérité, Aletheia. Il faut la dévoiler. Eh bien, qu'est-ce qui dévoile? C'est la qualité qui dévoile l'être. Le dévoilement de l'être se fait par la qualité. Et si on étudie bien la qualité, on va comprendre comment, dans une perspective phénoménologique, on ne saisit l'être que dans la qualité. Si j'emploie une méthode phénoménologique et que je veux saisir l'être, les phénomènes ont une démangeaison énorme de devenir métaphysiciens. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. Ils ont la démangeaison. Mais est-ce qu'ils saisissent vraiment l'être? Quand Heidegger parle de l'être, est-ce qu'il saisit l'être? On a oublié l'être. Et Heidegger aussi a oublié l'être. Heidegger de l'oubli de l'être. Et on va dire, Heidegger oublie l'être. Pour pouvoir dire ça, il faut saisir. Qu'est-ce que Heidegger a saisi vraiment de l'être? Bien, je crois, petite hypothèse de recherche du début, on a le droit de faire ça comme petite hypothèse de recherche. Je crois que Heidegger n'a saisi de l'être que la qualité. Et je crois qu'une méthode phénoménologique ne peut saisir de l'être que la qualité. C'est donc extrêmement intéressant de saisir ce que c'est que la qualité. Parce que par là, tout est en mur des grands. Je comprends que si je me place du côté du dévoilement de l'être, je ne peux saisir que la qualité. Qu'est-ce qui dévoile l'être? C'est la qualité. C'est le dévoilement de l'être, la qualité. C'est quelque chose de très important. C'est le vêtement de l'être. C'est le dévoilement de l'être. L'être m'apparaît toujours à travers une qualité. Mais la qualité n'est pas l'être. Et donc le dévoilement de l'être n'est pas l'être. Le dévoilement de l'être, c'est très important, mais ce n'est pas l'être. Alors n'y a-t-il pas une confusion à l'intérieur de toute la philosophie heideggerienne entre l'être et le dévoilement de l'être? Et c'est pas étonnant. Dans la mesure où on reste encore lié à une philosophie idéaliste, le dévoilement de l'être, c'est l'être. Or, le dévoilement de l'être, nous allons essayer de comprendre, c'est la qualité. Alors, on confond être et qualité. Tandis que nous allons essayer de comprendre dans la lumière de l'ousia. Dans la lumière de l'ousia. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Alors, si on comprend la qualité dans la lumière de l'ousia, on comprend que la qualité, c'est quelque chose de second. Et on commence à comprendre, et c'est ça qui va être très important à voir, et c'est ça qui va être intéressant à voir, la différence entre l'ousia et la qualité, on va comprendre que autre chose est l'ordre réel au niveau métaphysique, au niveau philosophie première, autre chose, la manière dont je connais la réalité. Dans ma connaissance de la réalité, la qualité a une place primordiale. Dans la connaissance, dans l'ordre de la réalité, la qualité est seconde. Elle n'est pas première. Mais dans mon ordre de connaissance, hein, dans ma connaissance vis-à-vis de la réalité, la qualité est première. C'est pour ça que si facilement je demeure au niveau de la qualité, elle est première, la qualité. C'est ce qui se manifeste en premier lieu. Qu'est-ce que vous, quand vous rencontrez une personne, hein, réfléchir tout simplement l'expérience que vous avez. Quand vous rencontrez une personne, qu'est-ce que vous voyez? Si vous êtes bon et charitable, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu? Toutes ces qualités. Si vous êtes un peu farouche, un peu mauvais, un peu... Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu? Tous ces défauts. Oh, c'est vrai, hein, cette personne que j'ai eue. Ah, c'est affolant, vous avez vu, c'est... Oui, tout de suite, c'est les qualités et les défauts qu'on voit. Ça revient au même au point de vue métaphysique. Hein. Qualité et défaut, c'est exactement la même chose. Hein. Ce sont deux contraires qui sont des frères, qui s'entendent très bien au point de vue métaphysique. Qualité et défaut, c'est la même chose. C'est nos défauts sont l'envers de nos qualités. Quand on est très charitable, c'est ce qu'on dit. On commence par dire vos qualités. Hein. Correction fraternelle. Toutes vos qualités. Merveilleux. Vous êtes un frère charmant, extraordinaire, merveilleux, intelligent. Mais vous avez les défauts de vos qualités. Vous êtes critique parce que vous êtes intelligent. Vous êtes et ainsi de suite. Vous voyez, c'est les défauts des qualités. Au point de vue métaphysique. Au point de vue métaphysique, qualité et défaut. C'est-à-dire privation de qualité. C'est la première chose que vous saisissez quand vous rencontrez quelqu'un. Le contact d'une personne, la rencontre, le phénomène de la rencontre. Quand je rencontre quelqu'un, je lui donne la main. C'est les qualités par où il a froid à la main. Il a une main de vipère. C'est la rencontre. C'est par les qualités que se fait le contact. Le contact d'une personne à une autre se fait par les qualités. S'il n'y avait pas de qualité, il n'y aurait pas de rencontre. Mais c'est pour essayer de comprendre tout ce domaine extrêmement important de la qualité. On aurait pu pédagogiquement, il faudrait peut-être le faire aujourd'hui, pédagogiquement, on aurait pu commencer toute la philosophie première par la qualité. Mais c'est très difficile de faire ça. Parce qu'alors, je ne sais pas si j'arrive à sortir du domaine de la phénoménologie. Et ça peut être intéressant pédagogiquement, vous voyez, de commencer par le domaine de la qualité. J'aimais mieux commencer brutalement le choc terrible de l'ousia. Vous voyez, parce qu'alors là, vous entrez vraiment dans le mur du son. Hein, paf, ça éclate. Et c'est l'éclatement de la substance première, de la substance seconde. Hein. Vous le dépassez. Et c'est vrai, il y a un bon. Ce qui est merveilleux dans la qualité, vous n'avez plus d'induction à faire. Ah, c'est reposant. L'induction, c'est terrible, c'est difficile. Alors, pour saisir la substance, il faut l'induction. Pour saisir la qualité, non. Mais pour saisir ce qu'est la qualité au niveau de l'être, il faut saisir l'ousia. L'ousia, je peux la saisir que par l'induction, le mur du son, je le dépasserai. De... Oh, très, très bien. Et c'est vrai, je ne peux saisir la qualité au niveau de l'être que par l'ousia. Si je reste uniquement au niveau descriptif, au niveau de la phénoménologie qui décrit, la phénoménologie décrit, elle reste au niveau descriptif. Il n'y a pas d'induction dans la phénoménologie. Il y a des réductions, mais pas d'induction. Alors, on va voir la différence entre l'induction et la réduction. Il y Il y a des réductions phénoménologiques, on ramène tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est beaucoup facile la réduction. Parce que la réduction, elle reste dans l'immanence. Je réduis, je réduis, je réduis, je réduis. Et avec le noyau fondamental et premier. Mais il n'y a pas d'induction, il n'y a pas de dépassement. Je reste dans l'immanence du vécu. Et quand j'en suis dans l'immanence du vécu, je décris. Alors à ce moment-là, je reste au niveau de la qualité, je peux la décrire. C'est même c'est ce qui se décrit le mieux. Vous allez voir, pour la quantité ne se décrit pas. Parce que décrivez une foule par tous les petits chapeaux, les têtes qui sont dans la foule. Donc les têtes, les qualités. Une bonne photographie de la foule. C'est des petites têtes qu'on voit comme ça, à l'infini. Vous voyez tout ça. Et autant que possible, le dernier, il faut qu'il se manifeste un peu mieux. C'est par la qualité que vous décrivez la foule. Une foule, si vous supprimez la qualité, ça devient une masse. Et vous ne pouvez plus décrire. Le domaine de la qualité, c'est la description. Parce que c'est ce qui se manifeste. C'est pour ça que c'est la qualité qui va engendrer en moi une connaissance esthétique. Nietzsche, qui veut le jugement esthétique. Tout Nietzsche est au niveau esthétique. Eh bien, c'est au niveau de la qualité. C'est pour ça que c'est si séduisant. Il n'y a pas d'induction dans la philosophie de Nietzsche. Vous restez uniquement au niveau descriptif. C'est très reposant. Quand vous êtes fatigué, lisez du Nietzsche. C'est très reposant. C'est très, très reposant parce que c'est ça. C'est esthétique, jugement esthétique. Tandis que quand vous êtes bien éveillé, lisez d'Aristote. Ça, c'est fatigant. Parce qu'on dépasse la description pour saisir les principes. Et c'est vrai, ce domaine propre de la qualité, c'est ça qui est très important dans la qualité. La qualité va me faire comprendre le pourquoi de la séduction de la description. Et dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très important. La séduction de Nietzsche. Pourquoi Nietzsche séduit tellement? Philosophie esthétique. Et on rejette tout ce qui est en dehors du point de vue esthétique. C'est le jugement esthétique au sens rigoureux. Esthétique, le jugement, c'est-à-dire l'intelligence est liée au sensible. L'intelligence est liée au sensible, liée aux qualités immédiates. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est ce que je saisis immédiatement et que je peux décrire, qui a une réaction en moi. Dès que je suis en face du sensible, je réagis. Le vécu du sensible. Tandis qu'au contraire, une philosophie qui veut être une philosophie de l'être doit saisir tout de suite la source. Et la source, c'est l'ousia. La source, c'est la substance. Alors, il y a un dépassement. Et le dépassement se fait de cette manière. Donc vous voyez un peu comment le problème de la qualité est quelque chose de très important pour nous. C'est une complémentarité admirable de l'ousia. L'ousia, c'est fatigant. C'est pour ça qu'on est resté longtemps sur l'ousia, parce que c'est fatigant. C'est fatigant pour l'esprit. La qualité, c'est détendant. Pas toujours, hein. C'est détendant. D'abord, c'est détendant. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Découvrez toutes les qualités. Et puis, essayez ensuite, dans la lumière de l'ousia, de comprendre ce que c'est que la qualité. La qualité, c'est l'opposé de la quantité. Constamment. Et complémentarité. Je débute. Nous commençons à entrer dans ce domaine très vaste de la qualité. C'est très, très vaste. Au point de vue extension, c'est merveilleux. On va regarder toute la philosophie sous l'angle de la qualité, sous l'angle de quelque chose qui est agréable à voir. Donc, je vois la qualité par rapport à l'ousia, je vois la qualité par rapport à la quantité. Un des grands problèmes pour nous, c'est la distinction entre la qualité et la quantité. Et c'est une distinction qui, pour nous, prend une importance énorme, étant donné que, dans la perspective dialectique de Hegel, il n'y a plus de distinction entre qualité et quantité. Ah, ça, c'est un très gros problème, parce que alors c'est peut-être ça, vous voyez, qui va me faire comprendre l'amalgame hegélien. L'amalgame hegélien, je ne le comprends pas au niveau métaphysique, mais je le comprends au niveau de la quantité et de la qualité. Et c'est peut-être ça qui va me faire le secret de la dialectique. C'est que de fait, je vois qualité et quantité vont se confondre, s'amalgamer. Dans une pensée dialectique, je ne peux plus distinguer qualité et quantité. Ça, c'est énorme. Je ne peux plus. Alors que dans le bon sens, hein, dans votre expérience quotidienne, le bon vin est une quantité énorme. Ce qui est merveilleux à Cana, c'est que la quantité et la qualité vont de pair. 5 à 6 hectolitres, c'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Et le vin est meilleur que le premier. Donc vous avez la qualité et la quantité. Et ça, il faut une intervention du Dieu. Les hommes ne font pas ça. Il faut une intervention du Dieu. Quand Dieu intervient, vous voyez la dialectique. Quand Dieu intervient, qualité et quantité sont liées. Eh bien, l'homme va pouvoir faire la même chose par la dialectique. Il va pouvoir faire que la qualité et la quantité vont de pair, vous ne pourrez plus reconnaître. Vous êtes pour la qualité, vous avez du recette. Toutes les propagandes sont comme ça. Vous êtes pour la qualité, on va vous faire un speech sur la qualité. Vous êtes pour la quantité, on fait le speech sur la quantité. Vous en aurez autant que vous voudrez, c'est ça qui est merveilleux. Et puis c'est d'une qualité merveilleuse, c'est plus que tout le reste. C'est merveilleux. Alors, vous voyez, on passe de l'un à l'autre. Et ça, c'est la pensée dialectique, c'est la pensée de la propagande. Elle est toujours dialectique. On lit les deux. Bien, on va au contraire, au point de vue philosophique, voir l'abîme qui existe entre les deux. Rejoindre l'expérience très simple de l'artiste. C'est là où on voit combien l'artiste, dans ce qu'il a de plus artiste, est en opposition vis-à-vis d'une pensée dialectique. L'artiste a un sens de l'analogie. Un sens très grand. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que la qualité, ce n'est pas la quantité. Il sait très bien, et ça c'est très intéressant de voir ça, il sait très bien que toutes les pièces qu'on fait par série ont toujours besoin d'un petit dernier qui est fait de manière artisanale. On ne peut jamais terminer quelque chose uniquement par la série, la quantité. Il faut toujours arriver au dernier moment où il y a un petit coup artisanal de la qualité. On ne peut pas se passer de la qualité, parce que la qualité, c'est le contact. La quantité ne fait pas de contact. Alors, on voit ça, et ça, regardez ça, c'est très intéressant, d'interroger les gens de métier au point de vue, tout simplement, mécanique. Plus les choses sont complexes, plus le dernier coup de main est artisanal. Est artisanal qualitatif, parce que l'artisan, c'est l'homme de la qualité. Alors que la série, c'est le point de vue de la quantité. Il faut en sortir le plus possible. Hein. Le plus possible, c'est la quantité qui commande tout. Tandis qu'au contraire, de l'autre côté, c'est qualitatif. Il y a un travail qualitatif, un travail quantitatif. C'est tout à fait différent. On paie les gens dans certaines usines au point de vue de la quantité. Dans d'autres usines, on les paie du côté qualitatif. Je me souviens d'avoir visité une usine tout près de Paris. Je connaissais celui qui était le PDG, il m'avait demandé de venir, parce que ça m'intéressait très bien, que ça m'intéresserait. Et il m'a dit, on paie les gens au niveau de la qualité. Je dis, comment ? Oui. Dans la mesure où on nous montre des réalités, des objets, ce qui est fait, impliquant un défaut, ils ont une prime. Pour que tout soit qualitatif. Donc, on attire l'attention sur la qualité et non plus sur la série. Quand on attire sur la série, vous savez bien, hein, on bâcle le plus possible pour aller le plus vite possible. Alors, il n'y a plus l'attention de la qualité. La qualité, c'est le contact. Vous perdez contact avec le réel quand vous êtes dans un monde purement quantitatif. L'imaginaire est du côté de la quantité. Et nos sensations sont du côté de la qualité. Alors, il faut essayer de saisir tout cela, hein, en voyant le domaine propre de la qualité. C'est pas commode. C'est difficile, mais en même temps, c'est passionnant, parce que la qualité, c'est un domaine qui est extrêmement important. Eh bien, je crois que la première chose que nous devons faire, dans une petite topique historique, même si nous n'allons pas trop loin dans cette topique historique, parce que si on va dans, ça n'a pas d'importance, on commence à qualité, on continuera l'année prochaine, hein, c'est-à-dire l'année prochaine, après les vacances. Je crois que c'est quand même très important de faire une petite topique historique sur la qualité. Parce que c'est une manière de sonder les philosophes. Quand vous avez affaire à un philosophe, voyez si ce philosophe a le sens de la qualité. Très intéressant. Et ça, c'est facile à faire. Si le philosophe a le sens de l'ousia, c'est très intéressant, mais c'est plus difficile, hein. Tandis que le sens de la qualité, vous le voyez tout de suite. Vous voyez tout de suite. Alors, il y a un aspect qui est très important, c'est de comparer Platon et Aristote au niveau de la qualité. On ne le fait pas beaucoup, parce qu'on le fait ordinairement sous un autre point de vue, sous le point de vue de l'être. Mais je crois que la première chose, c'est le faire par rapport à la qualité. Il semble bien que jusqu'à Platon, aucun terme propre n'ait été élaboré par les philosophes pour désigner la qualité considérée en elle-même. Ça, c'est un jugement très délicat. Regardez tout ce qui est avant de Platon, au point de vue philosophie grecque. Il semble bien, ça, ce serait très intéressant si c'est juste. Je n'ose pas l'affirmer de façon absolue, parce qu'il faudrait vraiment faire une critique très serrée de ce que représente la qualité. Parménide, c'est le philosophe de l'être, c'est pas le philosophe de la qualité. Donc, ces philosophes n'éprouvaient pas le besoin d'exprimer la qualité pour elle-même. C'est pour ça qu'il n'en a pas de nom. Platon, qui introduit le terme poiotès, forgé à partir de poion. Alors il faut bien voir, hein, le terme poion et le terme poiotès. C'est du reste de reprendre ça dans les questions. Une chose qualifiée est la qualité. Vous comprenez bien le concret et l'abstrait. Nous allons retrouver tout de suite. Quand je parle de qualité, je parle d'un terme abstrait. Et quand je parle d'une réalité qualifiée, je parle d'un terme concret. Alors, je connais l'abstrait par le concret. Je connais donc le poiétès par le poion. C'est bien évident. Je vous dis, c'est la rencontre que vous faites avec un ouvrier qualifié. Ou bien celui qui n'est pas qualifié. On vous demandera tout de suite, êtes-vous un cuisinier qualifié? Alors, si vous avez tous les diplômes, vous êtes un cuisinier qualifié. L'autre, c'est le gars de sauce. Le gars de sauce, c'est la quantité. Tandis que le cuisinier qualifié, c'est la qualité. Il saura tout de suite, hein, surtout quand il s'agira d'aller le plus loin possible dans les desserts. Alors, à ce moment-là, la qualité se manifestera le plus. Autrement, c'est le domaine de la quantité. Mais le dessert, c'est uniquement qualitatif. C'est uniquement qualitatif. C'est ça qui est intéressant. Le pâtissier, c'est qualitatif. Tandis que celui qui fait la cuisine pour le régiment, c'est la quantité qui compte. Hein. Le gros régiment, même si ce régiment est religieux, c'est le régiment. N'est-ce pas ? Tandis que la qualité, c'est autre chose. Alors, on voit le domaine de la réalité qualifiée, poion, poiotès, parlant du patient qui devient sentant et non point sensation, de l'agent qui devient qualifié, poionti, c'est très intéressant, le poionti, et non point qualité, Platon souligne, peut-être, cette qualité, poietès, est-elle pour toi un nom insolite, en même temps qu'incompréhensible dans sa généralité globale. C'est très joli ça. Mais Platon qui reconnaît que ce nom est peut-être insolite. C'est dans le Tête-à-Tête, 182A. Je relis cette phrase parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle nous montre bien l'introduction d'un nouveau terme. Ça ne veut pas dire que les philosophes avant Platon n'aient pas saisi la qualité. Mais c'est quand on étudie une chose pour elle-même, quand on étudie ce que la philosophie moderne appelle thématiser. Donc on va thématiser le podium en regardant le podium hôtesse, c'est-à-dire la qualité. Alors je regarde pour elle-même. Et à ce moment-là, je me donne un lieu. Que je la regarde pour elle-même. Tandis qu'au contraire, quand je regarde le poyonti, je regarde le ti, c'est le ti qui est poyon. C'est cette réalité, cette réalité qui est qualifiée. Quand je regarde la réalité qui est qualifiée, je regarde plus la réalité elle-même. Prenez le blanc du mur. Je regarde le mur, il est blanc. Oui, mais c'est le mur. La blancheur. Le mur disparaît, il ne reste plus que la blancheur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est le dessert. Le dessert, c'est qualitatif. Tandis que vous donnez, est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde, hein, c'est ce que vous direz. Vous direz ça avant tout. Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? C'est la quantité, ça. Pour un dessert, vous ne direz pas, est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? C'est tout à fait différent. Et est-ce que celui qui est chargé pour goûter, celui qui est à la tête du repas, est-ce qu'il sait goûter la chose? Bon. Alors, voyez comment Platon souligne. Peut-être cette qualité, poiotès, est-elle pour toi un nom insolite, en même temps qu'incompréhensible dans sa généralité globale, donc l'abstrait. C'est pour traduire ce poiotès que Cicéron forgera le mot latin qualitas. Vous savez que Cicéron a l'immense avantage de nous montrer les traductions du latin. Il y a Cicéron et puis il y a notre cher Boès, n'est-ce pas, les termes, le passage du grec au latin, il faut toujours regarder Cicéron et Boès. Alors là, on a les passages. Puis après, il y a le latin du latin au français, et le français a une jambe sur le latin et une jambe sur le grec. Quand le français est très intelligent, il appuie sur le grec. Quand le français est moins intelligent, il appuie sur le latin. Vous voyez, c'est au point de vue des mots, hein, au point de vue du langage, au point de vue philosophique. C'est comme ça. Alors, vous avez le passage, donc, du mot poietes à qualitas. En s'excusant à son tour, hein, Cicéron, d'utiliser ce terme inouï, extraordinaire, transposition d'un terme grec, non point courant, mais purement philosophique. Voilà ce que dit Cicéron. Mais donc, poietes est vraiment quelque chose d'inédit. Un terme philosophique inédit. C'est extraordinaire de voir ça. On ne l'a pas dit pour Ousia. Ousia, c'est bien plus commun. La substance, ça veut dire bien subsistance, que ça veut dire chez les stoïciens. La subsistance chez les stoïciens, c'est le beefsteak. C'est la subsistance, c'est ça. Il faut subsister, il faut manger quoi, pour subsister. Donc, c'est le beefsteak. Ou le petit pois. Quand le beefsteak n'est pas là, c'est le petit pois. Ça les remplace. Alors, c'est la subsistance, c'est l'ousien, c'est très commun ça. Qualitas, pas du tout. Le terme est né en philosophie. C'est le terme, vous voyez, qui va être le point de vue de la forme. On comprend très bien la forme en soi. Il fait tout Platon, la forme en soi. Platon, par la qualité, va projeter un monde séparé. Et le monde séparé des qualités en soi, vient tout simplement de cette innovation de la qualité que Cicéron lui-même reconnaît. Mais c'est intéressant pour montrer comment, par la qualité, je vais entrer dans toute la philosophie de Platon.